On va passer tout de suite au message parce que je veux vous exhorter par rapport à cela. Parce qu'apparemment, certains parmi vous, vous passez par des situations extrêmement difficiles. Et je vais vous expliquer certains principes scripturaires qui vous permettront justement d'être vainqueurs dans ces situations. On va commencer à lire à partir d'Exode chapitre 13. Et Exode 13, c'est juste après que Dieu ait institué la Pâque. Et dans cette Pâque qu'il a instituée, Dieu, nous savons que son peuple était esclave en Égypte. Et nous savons qu'il y a tout un message ici pour nous, l'Église, bien sûr. C'est l'image que nous étions esclaves de Satan, esclaves du péché, esclaves du royaume des ténèbres. Pharaon étant un type de l'ennemi de Satan, mais finalement Dieu envoie les 10 plaies et Dieu frappe l'Égypte parce que l'Égypte ne veut pas laisser partir son peuple. Et par la puissance de Dieu, Dieu a envoyé 10 plaies. Ce peuple finalement est renvoyé par Pharaon en disant maintenant vous pouvez partir. Et tout de suite après, les Israélites vont passer par une expérience qu'ils n'oublieront jamais. C'est le passage de la mer Rouge. Donc les Israélites célèbrent la Pâque. Les premiers-nés de l'Égypte meurent tous. Et verset 17, il est dit: lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit point, Exode 13, 17, par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu disait, le peuple pourrait avoir du regret en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fait un détour au peuple par le chemin du désert vers la mer des Joncs. Les Israélites, la mer des Joncs, c'est la mer Rouge. Les Israélites montèrent toutes équipées hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les ossements de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, certes, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes ossements avec vous loin d'ici. Ils partirent de Sukkot, ils campèrent à Étham, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait pas de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Alors ici, on voit les Israélites qui sortent d'Égypte. Mais ils ont tout un tas de richesses qu'ils ont pris des Égyptiens. Ils ont leurs brebis, leurs troupeaux, leurs cheptels. Et puis finalement, Dieu les amène par un chemin qui est plus long.
Donc,
volontairement, parce que la Bible nous dit que les Israélites allaient rencontrer la guerre dans le coin un peu plus loin. Et Dieu les amène donc à aller par un autre chemin. Et ils sont dirigés par la présence de Dieu. Et je vais vous montrer un certain nombre de principes par rapport à cela. Ce sont des principes importants. Ensuite, il est dit, chapitre 14, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux Israélites qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth et Migdol et la mer vis-à-vis de Baal-Tsephon. C'est là en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Le Pharaon dira des Israélites, ils se sont égarés dans le pays, le désert s'est refermé sur eux. J'endurcirai le cœur de Pharaon, il les poursuivra, mais je serai glorifié par le moyen du Pharaon et de toute son armée. Et les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel, c'est ce qu'ils firent. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite, alors les sentiments du Pharaon et celui de ses serviteurs à l'égard du peuple furent changés. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant partir Israël dont nous n'aurons plus les services? Le Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Sur tous, il y avait des équipages de 3 hommes. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et le Pharaon poursuivit les Israélites. Les Israélites étaient sortis librement. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars du Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent alors qu'ils campèrent près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vers Baal-Tsephon. Le Pharaon approchait.
Les Israélites levèrent les yeux et voici que les Égyptiens s'étaient mis en marche derrière eux. Et les Israélites furent remplis de crainte et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, est-ce parce qu'il n'y avait point de tombe en Égypte que tu nous as amenés pour mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car vaut mieux pour nous servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, soyez sans crainte, restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi cries-tu vers moi? Parle aux Israélites et dites-leur de se mettre en marche. Toi, lève ton bâton et étends ta main sur la mer et fends-la. Les Israélites entreront du milieu de la mer à pied sec. Tu vas lire le verset 10 et le verset 11, s'il te plaît.
Le kansome umurongo wa 10 na 11 mu kirundi kuva yo 14 Farao abegereje abisiraeli bunamura maso babona abanyagiputa babomye inyuma baranduka imitima maze batakambira uhoraho babaza Mose bati mbega ntamva zari muri Egiputa mu kutuzana gupfira mu bugaragwa niki catumye tugira rutyo kudukura muri Egiputa.
Donc vous imaginez bien une chose ici. Ce peuple,
il
nous a dit qu'il était constitué de plus de 600 000 hommes de pied. On peut considérer qu'avec les enfants, avec les serviteurs, les servantes, il devait y avoir au moins 1 million de personnes. Ils avaient à leur tête Moïse, un homme qui va dépendre à 100% du Seigneur. Puissamment, ils sortent d'Égypte avec un miracle. Pour qu'un pharaon, un despote, laisse sortir 1 million de personnes qui est de la main d'œuvre gratuite pour lui. Il a fallu un puissant miracle de Dieu. Ces Israélites commencent à marcher et ils ne savaient pas où ils allaient. Moïse faisant confiance à Dieu à 100%. Ils sortent et au bout d'un moment, Dieu, je dis bien Dieu, c'était ni un homme, ni Satan, ni qui que ce soit d'autre qui les avait amenés devant la mer. Et ils se sont retrouvés coincés entre deux obstacles impossibles à l'homme. Et je vais vous montrer qu'à plusieurs reprises dans les Écritures, en étant pleinement dans la volonté de Dieu, des hommes et des femmes, un peuple s'est retrouvé coincé complètement, ne pouvant plus faire marche arrière, ne pouvant plus faire marche avant. Et ce peuple-là s'est retrouvé à ce moment-là pris entre deux feux. Ils avaient la mer devant eux et ils ne pouvaient pas traverser la mer, sinon ils allaient se noyer. Comment emmener hommes, femmes, enfants, cheptels, etc., avec tous les bagages qu'ils avaient, en traversant la mer comme ça, c'était pas possible. D'un autre côté, il y avait un ennemi qui lui n'était pas statique comme la mer. La mer ne bouge pas, la mer est là, elle ne bouge pas. Elle est là aujourd'hui, elle sera là demain, elle sera encore là après-demain. Ça, c'était un ennemi qui les bloquait. Une barrière naturelle. Une circonstance naturelle. Qui les bloquait, ils ne pouvaient plus avancer. Mais de l'autre côté, il y avait d'autres circonstances qui, elles, étaient dépendantes du temps. Et ils étaient coincés entre deux feux. Une barrière statique qui ne bougeait pas mais qui ne pouvait pas franchir. Et quelque chose immense qui s'appelait l'armée d'Égypte, l'armée la plus puissante du monde à l'époque, qui elle avançait. Chaque seconde, c'était une seconde où cette armée se rapprochait. Chaque seconde, c'était un étau qui était en train de se fermer. C'était cet étau qui les serrait petit à petit, qui se rapprochait d'eux. Et vous voyez, dans notre vie, parfois, c'est ce qui se passe. On est là, on vit notre vie chrétienne, et d'un seul coup, on se retrouve contre une barrière, des circonstances naturelles qui sont complètement infranchissables dans
le
naturel. Et quelque chose d'autre qui avance avec le temps. Qui avance avec le temps. Qui avance avec le temps. Et chaque seconde qui passe, chaque minute qui passe, chaque heure qui passe, chaque jour qui passe, ça fait augmenter la pression sur nous. La pression est de plus en plus forte dans nos vies. Et là, la réaction du chrétien charnel, c'est la réaction des Israélites. Ah Seigneur, c'est vrai, je t'ai donné ma vie, mais depuis que je suis devenu chrétien né de nouveau, je n'arrête pas d'avoir des problèmes. J'avais moins de problèmes de ce genre-là avant d'être sauvé. Vous savez, Dieu n'a pas dit que notre vie se passerait sans embûche. Par contre, Dieu nous a promis que nous serions plus que vainqueurs dans toutes les circonstances. Et c'est ça qui fait la différence. Rencontrer l'armée des Égyptiens, être coincé entre deux feux dans un étau, ça, ça peut faire partie de ta vie. Par contre, tu as des promesses. Les Israélites, eux, c'était, ah, est-ce qu'il n'y avait pas de tombe en Égypte pour que tu nous amènes ici pour mourir? Ça a été leur maladie aux Israélites. De regretter l'Égypte. Pourtant, il n'y avait rien à regretter en Égypte. Vous savez, dans le monde, il n'y a rien à regretter du monde. Le monde, c'est le péché qui amène la mort. C'est être dans les griffes du diable. C'est être aveugle. C'est avoir l'ennemi qui peut faire ce qu'il veut de nos vies. Sans que nous puissions nous défendre spirituellement. Et Dieu ne t'appelle pas à regarder en arrière. Par contre, il y avait un homme à qui Dieu avait parlé. C'était Moïse. Moïse a eu des pressions gigantesques. Moi, à chaque fois que je lis cette histoire, je me dis vraiment Moïse. C'était vraiment un homme exceptionnel. Franchement, il a subi des pressions cette fois. Des pressions. Dans le peuple d'Israël, il y a eu des rébellions. Ils ont essayé de le manipuler je ne sais combien de fois. Ils ont cherché toutes sortes de choses. Ils se sont plaints. Ils ont tout fait. Pour essayer de décourager cet homme. Mais cet homme avait un appel, une onction et une vision. Et Dieu allait faire quelque chose d'étonnant ici. Je vais vous dire une chose. Si vous êtes dans la volonté de Dieu, si vous marchez dans la sainteté et que vous êtes dans un moment où ça brûle dans tous les sens dans votre vie, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous êtes en bonne position pour voir un grand miracle de délivrance de Dieu. Maintenant, c'est sûr que si t'es pas à ta place, ou que tu vis dans le péché, là, tu ne verras pas un grand miracle de Dieu. Et t'as plutôt intérêt, quand ça brûle comme ça, d'aller aux pieds du Seigneur, et dire, Seigneur, pardon. Seigneur, je vais aller à ma place, dans ce que tu me demandes, Seigneur. Et Seigneur, je vais marcher dans la sainteté. Là, ce peuple sortait d'Égypte. Ils étaient au bon endroit. À faire la bonne chose.
C'est
Dieu qui leur avait dit d'aller là. Et Dieu ne viendra jamais pour te coincer quelque part. Ça va parler à des gens ce matin. Dieu n'est pas là pour te mettre dans un coin et appuyer, vous savez, avec son pied sur ta tête en disant, ça va? Ça va?
Seigneur, je souffre,
Seigneur. Oh, j'ai mal, Seigneur, je souffre.
Imana siyo yogushira ahantu udashobora kwikurayo ngo itangure kugwa nasikiyaye, ni sawa? Ni bien.
Dieu n'est pas comme ça.
Imana suko imeze.
Et il y a des chrétiens qui pensent ça.
Ala bakristo bibaza gutyo.
Seigneur, je porte le fardeau.
Ngo mwami nikore umutwaro.
Je porte le fardeau, Seigneur.
Umutwaro. Umutwaro. Oya.
Dieu n'est pas un sadique, c'est-à-dire quelqu'un qui vient te faire souffrir. Et qui prend plaisir à te faire souffrir. Non. Si tu es dans la volonté de Dieu, si tu marches dans la sainteté, tu es en bonne position pour voir ta délivrance.
Et
ça, il faut que tu le saches. Tu es en bonne position pour voir ta délivrance. Et là, ils étaient dans une situation impossible. Si les Égyptiens, une armée entraînée, avec des chars, étaient venus et avaient trouvé les Israélites, ils les auraient taillés en pièces, ça aurait été un grand massacre. Cette armée des Égyptiens, ils auraient massacré ces Hébreux. Les Hébreux sont là. Ils n'ont pas d'armes parce que c'était des esclaves, ils sortaient d'Égypte. Ils n'étaient pas entraînés. Parce que quand vous êtes esclaves, vous êtes mal nourris, vous êtes maltraités.
Ce n'étaient
pas des gens qui étaient très forts. Et vraiment, quand vous regardez les guerres avec les Israélites, vraiment, on voit que les Israélites, à chaque fois, c'est pas une super armée. Hein. Ils ont eu quelques fois des grands généraux qui ont pu vraiment se battre et gagner les guerres. Mais la majorité du temps, c'était Dieu qui décimait l'armée adverse. Et ça, c'est une image pour nous. Par toi-même, dans une situation impossible, si tu te sens faible, par toi-même, tu raisonnes bien. Tu raisonnes exactement comme la Bible veut que tu raisonnes. En sachant que par toi-même, tu ne pourras pas t'en sortir. Donc, tu n'as qu'une solution. Te cacher dans celui qui va te faire sortir miraculeusement. Ça, c'est ce que tu dois faire. Et ça, c'est indispensable que tu comprennes ce principe. Si tu es coincé de partout, ne gémis pas. Si tu gémis, que tu te plains ou que tu t'effrayes, alors tu es dans une mauvaise posture. Alors tu risques de passer à côté de ta délivrance. Si tu ne gémis pas et que tu dis, Seigneur, moi je peux pas m'en sortir, mais toi tu peux tout
faire.
Je ne craindrai rien devant l'ennemi, mais je me confierai dans mon Seigneur. Je vais vous dire une chose. Si tu apprends à faire ça, c'est là où ton miracle se produira. Regardons dans Matthieu 8, un autre exemple. Et puis après, on reviendra à ce texte. Ça, c'est pour vous montrer un certain nombre de choses. Matthieu 8. Vous savez, la parole de Dieu nous apprend beaucoup de choses sur la vie. À partir du verset 23. Il dit, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Alors, il s'éleva sur la mer, une si forte tempête que la barque était couverte par les vagues. Et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en disant, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Et il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors, il se leva, menaça les vents et la mer, et un grand calme se fit. Plein d'admiration, ces hommes se disaient, Quel est celui-ci, car même les vents et la mer lui obéissent.
23 Matayo 8 atambukira mu bwato abigishwa be baramukurikira haza igihuhuta gikomeye mu kiyaga bituma ubwato buzimira mu mpfunda ariko we yarasinziriye baraza baramukangura bati mugenzi dukize turapfuye arababaza ati niki kibateye ubwoba mwabafise ukwizera gukemwe bunaravyuka azibizinguza ni kiyaga haba agahwekere gose baza abo bantu baratangura bati uyu muntu ki umuyaga ni kiyaga bo ko bimwumvira.
Sois bien sûr de suivre le Seigneur.
Vous
voyez ici, c'est typique.
Jésus
les précède. Jésus les
précède.
Et eux, ils suivent le Seigneur. Et d'un seul coup, mauvaise circonstance.
Sois
sûr que dans ta barque, il y a bien Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils sont dans la barque de leur propre volonté, et la tempête se lève, et après ils commencent à gémir, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as fait? Dieu ne t'a rien fait. C'est toi qui n'es pas dans la barque du Seigneur. Tu es dans une autre barque. Tu es dans ta propre barque. La barque de ta volonté. La barque de tes œuvres. La barque de tout un tas de choses que tu as prévues et planifiées. Et la tempête se lève. Et là, tu n'as pas le Seigneur à côté de toi pour dire, Seigneur, réveille-toi, ça ne va plus. C'est une image, Dieu ne dort pas bien sûr. Mais c'est pour beaucoup de gens, Dieu dort. Ils pensent que Dieu dort. Non, t'en fais pas. Au milieu de tribulations, si tu es dans sa volonté, il est toujours là. Il est toujours là. Ce qui ne veut pas dire que tout sera calme. Mais regarde à la bonne chose.
Regarde
comme Dieu voit les choses. Dieu nous dit que dans cette vie nous passerons par tout un tas de tribulations, tout un tas de mauvaises circonstances, tout un tas de plans sataniques, tout un tas de plans humains qui essaieront de nous déstabiliser, d'essayer de faire des choses contre nous. C'est pour ça que sois bien sûr que Jésus est dans ta barque. Que Jésus est dans ta barque. Parce que s'il n'est pas dans ta barque, t'as plutôt intérêt à revenir sur le rivage et à voir ce que le Seigneur veut pour toi. Il y a tellement de gens qui se font avoir avec ça. Et ils crient à Dieu. Ils sont dans une situation terrible. Mais Dieu n'est pas dans la barque. Dieu n'est pas dans la barque. Au chapitre 14, nous avons le même genre de choses. Verset 22, il est dit, Matthieu 14, verset 22, « Ensuite, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. » Là, ils étaient dans la barque. Parce que Jésus leur avait donné l'ordre. Là encore. Et il va y avoir une tempête qui va se lever. Et Jésus va marcher sur les eaux, nous connaissons. Et là encore, ça va bien se terminer. Vous savez, il y a des chrétiens, ils voudraient que tous les jours tout aille bien. Et alors ils sont à l'église, oh gloire à Dieu. Non, c'est pas comme ça la vie chrétienne. Il y a des bons jours, mais il y a des jours d'adversité. Maintenant, tout va dépendre quel résultat tu veux. Quel type de résultat tu veux. Mais des bons jours, il y en aura, et il y en a. Des jours d'adversité, il y en a. Maintenant, quel résultat tu veux avoir? Est-ce qu'au milieu de l'adversité, tu vas t'écrouler? Tu vas te faire ramasser par toutes les circonstances, par le diable et ses petits copains? Ou au contraire, tu vas voir un puissant miracle de Dieu? Ça, c'est ton choix. Et ça, c'est mon choix.
Comment veux-tu que les choses se terminent?
Est-ce que tu veux que les choses se terminent bien?
Ou est-ce que tu veux te faire ramasser par les circonstances?
Dans la Bible, il y a des hommes et des femmes qui ont marché dans la foi. Si tu vois que tout se passe mal autour de toi, il va falloir que tu marches dans la foi. Dans la foi. Et je vais vous parler de la foi dans quelques minutes. Mais avant cela, on va regarder encore certains passages. Regardons dans 2 Samuel 13. 2 Samuel 13 à 18. 2 Samuel 13 à 18. Ça va être une très longue histoire qu'on ne peut pas lire ensemble, que je vais vous résumer brièvement. C'était le roi David et ses enfants. David va avoir de gros problèmes avec certains de ses enfants. Une de ses filles, qui s'appelait Tamar, va se faire violer par un de ses fils. Et son fils, qui s'appelait Amnon, et franchement, dans la famille, après, ça va mal se passer. Donc un de ses fils tombe amoureux d'une de ses filles. La viole. Et David apprend ça. Mais David ne réagit pas pleinement. Et il y a un des frères qui s'appelait Absalom ou Absalom qui lui va réagir. Mais il va réagir des années plus tard. Il est très fâché sur ce qui s'est passé. Et ce fils, donc cet autre fils de David, Absalom, 2 ans plus tard, va convier tous les fils de David à une fête chez lui. Et il va planifier quelque chose pour détruire Amnon, pour le tuer. Et c'est ce qu'il va faire. Il va faire assassiner son propre frère, celui qui avait violé sa sœur. 2 ans plus tard. Vous savez, parfois, il y a des gens qui sont comme ça. Pendant des années, ils cachent des sentiments, des mauvaises choses. Et un jour, ça sort. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Être désespéré? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des gens qui gardent la pourriture comme ça dans leur cœur. Ils sont là, il s'est passé un certain événement, ils vous en veulent pour telle ou telle chose, et il y a des graines dans leur cœur qui ont été semées et que le diable a bien entretenu. Vous savez, si nous ne faisons pas attention à notre caractère, le diable cultive un jardin dans notre vie. C'est pour ça que la Bible nous prévient de tas de choses à propos de notre caractère, à propos de notre vie. Si tu laisses le diable cultiver un jardin dans ta vie, fais très attention, parce que ces graines qui sont là, elles ne grandiront pas du jour au lendemain, mais elles vont pousser. Et un jour, elles porteront les fruits pourris de ce que tu as laissé dans ton cœur. C'est pour ça qu'il faut veiller sur notre cœur, frères et sœurs. Il y a des fois des gens comme ça qui pendant des années gardent des choses. Et Absalom, lui, il va faire assassiner son frère devant ses autres frères. Et là, les autres frères courent parce qu'ils se disent, ça y est, nous aussi on va y passer. Et ils rapportent la chose à leur père. Et David est très fâché. Très fâché contre Absalom. Il le met en résidence surveillée pendant des années. Et Absalom, il gardait les choses dans son cœur. La Bible nous dit que c'était un homme très très beau. Il y avait avait eu de très beaux enfants. Extérieurement, Absalom paraissait très bien. Un beau garçon, un bel homme. Il se marie, il a des beaux enfants, nous dit la Bible. Mais il y a quelque chose à l'intérieur de
toi.
Qui pourrit. Le diable a cultivé un jardin. Et cet homme n'est pas content. Et il va travailler pendant des années et des années pour essayer de prendre le trône de son père. Il parle au peuple. Et le peuple avait du mal à être jugé par David. On ne sait pas exactement pourquoi. Quand il venait, David ne les recevait pas bien.
Et
Absalom va en profiter. Et il va monter petit à petit toute une armée, tout un peuple contre David. Et David va être menacé pendant des années et des années et des années. Et David, au milieu de ces menaces, il va écrire le psaume 3. Et vous allez voir ce que David écrit. Ça, c'est quand tu es au milieu de l'adversité. Vous savez, quand nous sommes au milieu de l'adversité, nous n'aimons pas cela. On n'aime pas quand ça brûle partout. Par contre, je vais vous dire une chose. C'est extrêmement formateur pour notre caractère. Quelqu'un qui ne vit jamais aucune adversité, c'est pas quelqu'un qui saura pas
résister.
Cette personne ne saura pas résister aux mauvais jours. Par contre, quelqu'un qui a connu l'adversité, et c'est jamais agréable, quand Satan essaye de voler votre santé, de voler votre famille, de voler vos affaires, vos boulots, etc., etc. Personne n'aime cela. Quand ce sont des hommes qui planifient des mauvaises choses, vous pouvez lire vraiment dans l'Ancien Testament, il y a plein d'histoires comme cela, de gens qui complotent contre les rois, qui complotent contre les prophètes,
etc.
La parole de Dieu est très instructive. Et ce matin, là où je vais en venir, c'est non pas sur comment des complots se font, se forment, les stratégies que les gens utilisent, mais c'est surtout la façon dont Dieu peut toujours nous sortir de situations difficiles, que ce soit de mauvaises circonstances, que ce soit de gens qui complotent, de tout un tas de choses qui essaient, des gens, par exemple, qui se mettent ensemble pour vous chasser du boulot, alors que vous avez les mains pures. Oui, il y a plein de choses comme ça que des gens essayent de tramer par jalousie, par méchanceté, par toutes sortes de choses. L'homme n'est pas bon par nature. Et il faut que vous appreniez à vous-même vous tenir sur la parole de Dieu. Psaume de David quand il fuyait devant son fils Absalom. Vous imaginez, son propre fils avait fait fuir le roi. C'était à l'époque où Absalom avait réussi à lever une armée contre l'armée d'Israël. Et essayer de détrôner David. Éternel, qu'ils sont nombreux mes adversaires. Nombreux ceux qui se lèvent contre moi. Nombreux ceux qui disent à mon sujet, point de salut pour lui auprès de Dieu. Vous voyez, David va écrire ce psaume non pas une fois qu'il a vu la délivrance. Son fils Absalom va mal terminer, il va mourir. Il va y avoir une bataille et son fils va mourir, il va être tué. Et en fait, David écrit ici. Il écrit au milieu de l'adversité. Vous savez, il ne faut pas louer Dieu alors que tout est fini. C'est pas comme ça que ça marche la foi. Il y a des gens qui aimeraient que la foi marche comme ça.
Une fois que la bataille est finie, oh merci Seigneur, parce que tu es le Dieu de la victoire. Oui, ça c'est bien, mais ça c'est l'après-bataille. Il faut que tu saches que si tu es au milieu du feu, au milieu des circonstances mauvaises, au milieu de complots d'êtres humains, au milieu d'attaques sataniques, tu dois dire, mais toi éternel, tu es pour moi un bouclier. David le confessait alors que son fils avait toute une armée qui le traquait. Pourquoi? Parce que David était un homme de foi. Parce qu'il connaissait son Dieu. Parce que c'était un homme qui avait vu Dieu agir dans bien des circonstances. Et que là, au plein milieu de sa famille, il y avait de grands problèmes qui s'étaient levés. Il y avait une rébellion ouverte de son fils qui en voulait à sa position de roi et à sa vie. Et il va dire, tu seras ma gloire et tu relèveras ma tête. Il a dit ça? Non! Il n'a pas dit tu seras ma gloire et tu relèveras ma tête. La foi confesse la victoire qui est là. Rappelez-vous d'une chose. D'abord, tu remportes la victoire dans l'esprit, dans le monde spirituel, et après elle se manifeste dans le naturel. C'est un principe qui est très important. D'abord, tu remportes cette victoire par ta foi dans le monde spirituel, et c'est là où tu verras la manifestation dans le naturel. C'est pas le contraire qui se passe. Si David avait dit, oh Seigneur, tu seras ma gloire quand je serai délivré, et tu relèveras ma tête, Seigneur. Alors ça n'aurait pas été une parole de foi.
Non.
Au milieu même de l'adversité. Quand tout allait très très mal pour David, David disait, tu es ma gloire et tu relèves ma tête, Seigneur. Tu agis en ce moment. Ça, c'est la foi. Au milieu de l'adversité. Si tu es au milieu de l'adversité ce matin, arrête de dire, Seigneur, tu agiras. Mais commence à louer Dieu pour la victoire. Et elle se manifestera dans ta situation. La foi, c'est se voir avec la victoire. La foi, ce n'est pas en train de se poser la question si Dieu est en train de faire quelque chose ou s'il fera quelque chose. Mais la foi dit c'est maintenant. Seigneur, tu es ma gloire. Tu relèves ma tête. Tu ne laisseras pas cette situation prédominer. Mais c'est ta parole qui prédomine dans cette situation. Et c'est ça qui fait la différence. À haute voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel me soutient. Je ne crains pas les myriades de gens qui de toutes parts se sont mis contre moi. Lève-toi Éternel, sauve-moi mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. C'était l'Ancien Testament. Il faut pas prier ça. À l'Éternel. À l'Éternel est le salut, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Ici, David est clair. Même s'il est dans l'Ancien Testament. Nous avons plus. Nous avons le puissant nom de Jésus. Nous avons le puissant nom de Jésus. Qui nous a acquis une victoire totale. C'est au milieu de l'adversité que tu dois crier victoire. C'est alors que tu te sens entre l'armée des Égyptiens et la mer Rouge. Que tu dois crier victoire. Ce n'est pas le temps de baisser les bras, justement. C'est pas le temps d'abandonner, au contraire. C'est le temps d'alimenter la foi en parlant la parole de Dieu, en déclarant dans le monde de l'esprit au nom de Jésus qu'aucune arme forgée contre toi ne pourra prédominer dans ton boulot, dans ta famille, dans ta santé, dans la santé pour laquelle... dans la santé de la personne pour laquelle tu crois. C'est alors que tu verras réellement
la victoire se manifeste. C'est le principe scripturaire. D'abord dans l'esprit, et après tu as la manifestation. Si tu veux d'abord voir avec tes yeux, et après dire, oh, merci Seigneur, tu agis, et ben tu seras emmené par l'armée des Égyptiens. Regardons ensemble encore Exode 14. Verset 16. Dieu va parler à Moïse. Si tu es au milieu de l'adversité, si tu te sens coincé entre ta mer rouge et l'armée des Égyptiens, si tu te sens coincé, mais que tu as la foi, alors Dieu va te donner une parole. La parole qui va amener ton miracle. Qui va amener ton miracle. Si tu es dans cette position-là, c'est là où Dieu peut te parler. Dieu ne parle pas alors que tu as peur. La seule chose qu'il te dira, ne crains pas. Mais si tu continues à avoir peur, tu bloques la parole de Dieu pour toi. Tu bloques sa parole pour toi. Donc fais très attention à cela. Si tu te plains, que tu regardes en arrière, en disant, oui Seigneur, puisque c'est comme ça, moi je retourne dans le monde. Vous savez qu'il y a des gens qui menacent Dieu avec ça. Ils disent, oh Seigneur, si tu ne me sors pas de cette histoire, moi je retourne dans le monde, je retourne dans le péché. C'est petit de raisonner comme ça. C'est des gens immatures, totalement. Vous savez, je vais vous dire une chose. Dieu ne pliera jamais devant des menaces. Mais ça, il faut que vous le sachiez. Dieu ne pliera jamais devant tes menaces. Il t'aime. Mais tu dois avoir la bonne attitude par rapport à
ça.
Si tu essayes de proférer des menaces devant Dieu, Dieu ne te dira. Vous n'avez pas remarqué parfois quand on est bébé spirituel qu'on fait des prières stupides comme ça, Dieu ne dit rien. Vous n'avez jamais remarqué ça? Et Dieu, lui, il n'est jamais confus. C'est nous qui sommes confus. Alors, si tu veux éviter d'être confus, fais attention à ce qui sort de ta bouche. Parce que Dieu est un Dieu de foi. Ce qu'il veut, c'est que tu marches dans la foi. Ce qu'il veut, c'est que si tu es dans la fournaise ardente, que tu aies la foi. Parce que quand tu marches dans la foi, à ce moment-là, il y a quelqu'un d'invisible qui va se manifester et te faire sortir de la fournaise. Qui te fera sortir de la fosse au lion. Parce que Dieu est un Dieu qui nous fait sortir des situations tragiques, des situations impossibles. Et c'est là où Dieu dit quelque chose à Moïse. Toi Moïse, lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la. Fends-la en deux. Les Israélites rentreront au milieu de la mer à pied sec. J'imagine bien Moïse. Là, il avait tout le peuple devant lui. Tu lui disais, oui, tu vois toi Moïse. Il
n'y
avait pas de tombe en Égypte. Il
n'y
avait pas de tombe en Égypte pour que tu nous aies
amenés
ici. Pour qu'on se fasse trancher la gorge. On préférait encore souffrir avec le fouet des Égyptiens. Et Moïse devant ça, ça fait des pressions. Et d'un autre côté, Dieu qui lui dit, lève ton bâton. Et tu vas voir, la mer va s'ouvrir. Ah, et Moïse va lever son bâton. Et Dieu va ouvrir la mer d'une façon
miraculeuse.
Quand la parole de Dieu vient à vous, vous obéissez. Et c'est là où Dieu va ouvrir votre mer.
Il
va créer un passage. Dieu créera un passage. Dieu créera un passage. Et ce passage, il ne sera pas naturel. Dieu créera un passage surnaturel. C'est ça que Dieu veut faire dans nos vies, frères et sœurs. Si tu es au milieu du feu, tu es dans la bonne position. Si tu es quelqu'un de foi, ça me fait penser à un grand serviteur de Dieu qui était missionnaire il y a bien des années. Et à l'époque, il traversait, donc il faisait des voyages en bateau qui duraient des mois.
Pour aller
d'un continent à un autre. Et un jour, cet homme était sur un bateau et il y a une grande tempête qui se levait. Et alors, il était avec un autre frère. Et ce frère lui disait, bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et cet homme de Dieu dit, s'est frotté les mains. Et il s'est dit, c'est bon, c'est le moment de voir Dieu agir. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi. La foi. La crainte n'est pas dans la foi. C'est vrai que des fois ça nous fait mal de voir certaines choses se passer. On se fait taper dessus. On dit hey, qu'est-ce que c'est que ça?
Mais
dans ton esprit, si tu écoutes ton cœur, si tu marches dans la parole de Dieu, si tu marches dans la sainteté, alors il va y avoir le géant qui est en toi. Il va vouloir se manifester. Et si tu te laisses dans la bonne position, si tu restes dans la bonne position, pour laisser Christ se manifester, c'est là où il va créer ce chemin. Quant à moi, Dieu dit, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent derrière eux. Je serai glorifié par le moyen du Pharaon et de toute son armée, et de ses chars et de ses cavaliers. Et les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel quand j'aurai été glorifié par le moyen de Pharaon, de ses chars et de ses cavaliers. Dieu voulait faire deux choses ici. D'une part, il voulait créer un passage surnaturel, mais en même temps, anéantir les ennemis. Ceux vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Dieu ne veut pas te faire sortir d'un endroit et puis que 5 minutes après tu rencontres les mêmes problèmes. Parce que si les Égyptiens avaient suivi les Israélites de l'autre côté de la mer Rouge, le problème n'aurait pas été résolu. Dieu a la solution parfaite. Non seulement il crée un chemin surnaturel, mais encore en plus, il va te débarrasser de cette adversité qui te poursuit. Ça, c'est ton choix. Parce que c'est sa volonté. Et si tu rentres dans sa volonté, c'est ce que tu verras. C'est ce que Dieu fait dans sa parole. Verset 19, l'ange de Dieu qui allait devant eux, en fait l'ange de l'Éternel c'était Jésus, devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée partit devant eux et se tint derrière eux. Elle se rendit entre le camp des Égyptiens et le camp des Israélites. Elle était pour les uns nuée de ténèbres, vous savez pour qui, et pour les autres elle éclairait la nuit. Ils ne s'approchèrent pas les uns des autres pendant toute la nuit. Alors Moïse étendit sa main sur la mer. L'Éternel refoula la mer toute la nuit par un puissant vent d'est et mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les Israélites entrèrent du milieu de la mer à pied sec et les eaux furent pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens poursuivirent et tous les chevaux du Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. Pendant la veille du matin, l'Éternel regarda la colonne de feu et de nuée, le camp des Égyptiens, et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il écarta les roues de leurs chars et en alourdit la marche. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour eux contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer et à l'approche du matin, la mer devint à son niveau habituel. Les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens du milieu de la mer. Ici, Israël va vivre une immense victoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Rien.
Juste obéir. Juste obéir. Moïse a écouté la parole. Il a levé son bâton. Dieu a créé ce chemin surnaturel.
une parole de Dieu à laquelle tu obéis au milieu de l'adversité, quand tu marches dans la foi. Vous savez, quand nous sommes dans l'adversité totale, souvent nous ne savons pas quoi faire. Quand l'adversité vient contre nous, ça te couvre comme ça. Tu te retrouves par terre, tu dis, hey, qu'est-ce qui s'est passé? Un peu
passé.
Comme un accident de voiture. Tu es là tranquillement, puis d'un coup, bouf, tu te retrouves. Et tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? Toi, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Mais il est ta gloire, il relève ta tête. Et là, ces Israélites, ils sont protégés par la présence de Dieu. Ça, j'aime ce passage ici. La nuit, la colonne. Dieu manifestait sa présence par une colonne de feu la nuit et une colonne de nuée le jour. Mais là, les Israélites, étant dans l'obéissance en suivant Moïse, s'il y avait une partie du peuple qui était reparti, ils auraient été morts. Mais là, ils ont suivi l'ordre de Moïse. Et là, cette colonne éclairait le camp des Israélites. Parce que Dieu est un Dieu de lumière pour son peuple. Et les ténèbres empêchaient de voir l'armée des Égyptiens où se trouvaient les Israélites. Et ils n'ont pas bougé. Ils ne pouvaient pas bouger. Ils ne pouvaient pas attaquer pendant la nuit. Ce n'était pas possible parce qu'ils ne voyaient pas ce qui se passait du côté des
Israélites.
Israël passe. Personne n'est touché. Et d'un seul coup, Moïse étend sa main selon l'ordre de Dieu.
Là
encore, selon l'ordre de Dieu. Et la mer se referme. Et l'armée la plus puissante du monde de l'époque est engloutie comme ça. Elle est foutue. Et les Israélites se réjouissent de cette immense victoire. Là, ils vont aussi psalmodier. Mais vous voyez, David nous montre le principe de la foi. Quand il était poursuivi par son fils, il a déclaré
sa foi.
Là, ils avaient un leader qui était Moïse, les
Israélites,
qui marchait dans la foi, qui obéissait. Si vous êtes dans des moments difficiles, ce que Dieu veut, c'est que vous obéissiez. Si tu es au bon endroit, au bon moment, à faire la bonne chose, et que d'un seul coup, toute une adversité vient contre toi, alors tu dois apprendre à marcher dans la foi. Tu marches dans la foi, tu déclares ta victoire dans l'esprit, tu te tiens sur la parole de Dieu, la présence de Dieu viendra te fortifier. Et cette présence vient, mais elle vient pas 24 heures sur 24. Il y a des moments où tu es là, cette présence de Dieu vient te fortifier, et puis il y a des moments où d'un seul coup l'adversaire essaye de se montrer en gros. Et c'est là où tu dois continuer à persévérer. Et c'est là où Dieu te parle, te donne la parole qu'il faut. Et si tu agis sur cette parole, c'est alors que Dieu ouvre ce chemin surnaturel et qu'il va s'occuper une bonne fois pour toutes de ceux qui veulent te nuire. Dieu nous dit dans Hébreux 11, verset 29, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer rouge comme une terre sèche, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les non-croyants parce qu'elle avait accueilli pacifiquement les espions. Que dirais-je encore? Le temps me manque, verset 32. Si je passais en revue Gédéon, Barak, Samson, Jephté, David, Samuel et les prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, reprirent des forces après avoir été malades, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent torturées et n'acceptèrent pas la délivrance afin d'obtenir une résurrection meilleure. »
Donc tous ces gens sont des témoins de la foi.
Et
Dieu veut. Si tu es au milieu du feu, au milieu de l'adversité, que tu apprennes à déclarer ta foi. Oh Seigneur, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Aucune arme forgée contre moi
ne pourra prospérer.
Je suis plus que vainqueur,
celui qui me fortifie.
Quand tu commences à proclamer la parole de Dieu qui est dans ton cœur, alors tu libères la puissance de Dieu.
Par
contre, si tu es là et que tu n'arrêtes pas de te plaindre, oh Seigneur, c'était mieux quand j'étais inconverti. Oh Seigneur, pourquoi tu m'as amené dans cette galère? Ces problèmes-là, Seigneur, pourquoi? Vous savez, c'est les enfants qui disent toujours pourquoi. Ils ont un âge comme ça.
Seigneur,
Pourquoi? Pourquoi le monsieur il a une chemise bleue? Pourquoi le monsieur il a une cravate? Pourquoi il a un truc dans la main? Pourquoi le monsieur il a des chaussures noires?
Vous
voyez, les enfants posent toujours des questions comme ça, il y a un âge. Et Dieu ne veut pas que tu sois comme ça. Il veut que tu grandisses. Mais pasteur, c'est pas facile. Tu sais pas par quoi je passe. Tu sais pas ce qui se passe dans mon boulot, dans ma famille, dans ma santé, dans ceci, dans cela. Moi je suis un homme, je ne sais pas. Mais il y en a un qui n'est pas
capable.
Et qui le sait. Qui le sait parfaitement. Parfaitement. Et si tu apprends à te confier en lui, à te confier en lui, dans les situations les pires dans lesquelles tu peux te trouver. Je te dis, c'est au milieu du feu, quand tout brûle, que tu dois te fortifier dans la parole. Quand tout brûle, quand ta tête dit c'est foutu, tu dis non. En lui, il y a la victoire. Si tu as cette foi-là, tu sortiras complètement de tous ces problèmes. Dieu créera un chemin surnaturel. Il engloutira tes ennemis. Par contre, si tu crains, vous savez, la crainte, c'est la porte ouverte à l'ennemi. Les gens qui craignent, ce sont des gens qui vraiment ne marchent pas dans la foi et n'arriveront jamais dans la foi. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. La crainte mange la foi. La crainte tue la foi. Et la crainte, c'est une forme de manipulation satanique. C'est une arme que le diable utilise pour te déstabiliser, pour te montrer que les problèmes doivent prédominer dans ta vie. La foi regarde la solution, marche dans la solution et sait que Dieu agit à cet instant même. C'est ce qui fait toute la différence. Et il y a trop de gens qui ne savent pas marcher dans la foi. La foi est un principe important. La foi permet de voir Dieu intervenir dans nos situations. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Et tu dois apprendre à motiver ta foi, à marcher dans la foi, à déclarer la victoire dans l'esprit au nom de Jésus. Et c'est alors que cette victoire promise dans la parole de Dieu se manifestera. On va prier un moment.